France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Alain Juppé sera donc promu sage. L'ancien Premier ministre rejoint le Conseil constitutionnel sur proposition officielle du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. À 73 ans, c'est avec une profonde émotion qu'il dit renoncer à la mairie de Bordeaux. Alain Juppé entrera au Conseil constitutionnel aux côtés de l'ancien ministre Jacques Mézard et du sénateur Les Républicains François Pillet. Justice a été en rendu. C'est par ce tweet que le ministre de l'Intérieur se dit satisfait du procès de Christophe Détinger. Hier, l'ancien boxeur a été condamné au tribunal correctionnel de Paris à 1 an de prison avec aménagement de peine. Il a été reconnu coupable d'avoir violemment frappé 2 gendarmes. C'était au début du mois de janvier lors d'une manifestation de gilets jaunes à Paris. Carlos Ghosn est privé d'une partie de sa rémunération. Le conseil d'administration de Renault ne va pas lui verser des indemnités de non-concurrence, pas même un retour sur action pour la période qui va de 2015 à 2018. Cela représentait 30 millions d'euros. Carlos Ghosn, je vous le rappelle, est toujours détenu au Japon pour malversation financière. Il vient d'engager un célèbre avocat japonais pour, dit-il, rétablir son innocence. Dans l'actualité de ce jeudi matin, soulignons aussi cet accord trouvé entre les 3 institutions européennes, Commission, Conseil et Parlement. Accord sur les droits d'auteur, malgré la défiance des géants d'Internet, les GAFAM. Le texte a notamment pour principe de créer un droit voisin du droit d'auteur pour les éditeurs de presse. Cela permettra aux médias de se faire rémunérer lors de la réutilisation en ligne de leur production sur les agrégateurs d'informations comme Google News ou Facebook. Le texte prévoit également d'inciter les plateformes du type YouTube à mieux rétribuer les créateurs de contenu. L'accord doit maintenant être adopté par le Conseil européen et les eurodéputés avant les élections européennes de mai prochain. Et puis un attentat suicide a fait au moins 27 morts en Iran hier. Ce sont des membres des gardiens de la révolution qui étaient visés par cette voiture remplie d'explosifs. Cela s'est passé dans le sud-est du pays.
Prenons les chemins de la philosophie. Chaque jour sur France Culture à 10h, Adèle Van Rett.
Des entrailles dégoulinantes et des charognes puantes représentées en peinture. Du sang visqueux et qui gicle sur la caméra. Du mode d'existence des zombies en littérature et dans les séries jusqu'à l'option ultra-gore activable dans les jeux vidéo, cette semaine, nous convions Aristote, Platon, Baudelaire et Canguilhem pour vous proposer une philosophie du gore.
Les chemins de la philosophie, de lundi à vendredi à 10h et sur franceculture.fr.
6h03, vous écoutez France Culture, Toufik Hakem est à vos côtés pour une demi-heure.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, le réveil culturel c'est tous les jours à 6h du matin à la radio ou quand vous voulez, si vous passez par l'abonnement au podcast du réveil culturel ou l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr. Le réveil est préparé avec Corinne Amar, réalisé par Vincent Abouchard, avec ce matin Pierrick Monsigny à la technique. Et tous les jeudis, on parle de l'actualité musicale, mais aujourd'hui, exceptionnellement, on va coller au calendrier chrétien, on va se poser cette question. Est-il vrai que les chansons d'amour s'oublient vite en général ?
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Et pour répondre à cette question, mon invité Hélène Lazera, que j'ai un plaisir fou à retrouver ce matin avec vous.
Moi de même.
Hélène Lazera, spécialiste de la chanson. Vous avez longtemps travaillé pour Libé et puis ensuite pour France Culture. On se souvient effectivement de Chanson Boom. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque c'est la Saint-Valentin, est-ce que vous êtes amoureuse ?
Un peu.
Moi, pas du tout. Mais ça n'empêche pas qu'on va la faire, notre émission.
Ça viendra.
Ça n'empêche pas qu'on va la faire, cette émission. Et vous nous avez fait un choix des plus belles chansons d'amour, selon vous.
Qui me délivrera de ton corps, de tes doigts, de ta bouche? Qui me délivrera? Qui me délivrera enfin de toi? Près de toi j'étais comme en prison, au fond j'ai fui sans te donner mes raisons. Tu les sais, tu les sais, tu les sais bien. J'ai jetais sur moi tes yeux et ton parfum. Demain, je m'en irai seul encore plus loin. Tu le sais, tu le sais, tu le sais bien. Qui me délivrera de ton corps, de tes doigts, de ta bouche? Qui me délivrera? Qui me délivrera enfin de toi?
Mais dites donc, c'est une souffrance chez elle, l'amour chez elle, c'est-à-dire chez Nicole Louvier.
Oui.
Et la Nazira, vous avez...
Une immense souffrance.
Voilà, vous avez commencé cette sélection des chansons d'amour avec elle. Et pourquoi avec cette souffrance?
Bon, pas parce que je trouve que son écriture est absolument extraordinaire. Puis il y a une petite chose spéciale, c'est que beaucoup de chansons de Nicole Louvier chantent l'amour des femmes.
C'est-à-dire et entre femmes.
L'amour entre femmes, oui. Et il y en avait pas beaucoup à l'époque de chansons qui chantaient ce genre de choses.
L'amour, c'est un thème récurrent dans la chanson, dans les chansons, un peu partout dans le monde. Et pourquoi on aime plutôt une chanson par rapport à tant d'autres qui parlent du même thème?
Est-ce que c'est le même thème? Est-ce que les thèmes ne sont pas différents d'une chanson à l'autre? C'est un peu comme ça.
Chanter l'amour, toujours l'amour?
Ben oui, parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui est bon. C'est Prévert qui a écrit les vraies chansons contre la guerre sont les chansons d'amour.
Mais parce que c'était un enfant de la guerre, ou des guerres, Prévert.
Oui, la guerre de 14-18, il avait souffrir. Et il y en a un autre, c'est Moustaki.
Georges Moustaki.
Qui m'avait dit, mais Hélène, vous savez, Piaf, elle chantait l'amour. Elle chantait tout l'amour.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben c'était énorme, sa façon dont chantait l'amour. Allez, venez, mille heures. Bon, voilà.
Mais vous avez fait ce choix des chansons d'amour emblématiques avec Nicole Louvier, née en 1933, morte en 2003, qui était auteure, compositrice, interprète, même écrivaine. Elle a même produit, et comme vous d'ailleurs, Hélène Nazera, quelques émissions culturelles. Mais elle a été lancée par Maurice Chevalier, donc c'est vraiment l'âge d'or du music-hall.
Je ne crois pas qu'elle ait été lancée par... Elle a fait son premier disque à 16 ans. On l'a un peu lancé, quoi. C'était très très différent, ces façons de chanter.
Alors, ce qu'on a entendu de ce titre, Tu me délivreras, de Nicole Louvier, c'est son histoire d'amour avec une femme, mais ça, on ne le perçoit pas tout de suite, dès la première écoute.
Ça dépend. Moi, je le sens et j'ai eu la chance de rencontrer la femme de sa vie. Elle a vécu toute sa vie avec la même femme.
Nicole Louvier, donc.
Ouais. Elle avait... C'était une enfant cachée pendant la guerre. Elle avait une vie vraiment très, très intéressante.
On continue votre sélection des chansons d'amour à l'occasion de la Saint-Valentin dans le Réveil culturel avec Hélène Nazera. Et là, c'est une autre femme, Michel Bernard, qui chante « Je t'aime ».
Je me fous du cours du dollar, je me fous des jeux de hasard, même si j'y joue quand même, je t'aime. La bourse ou la vie, ben moi j'ai déjà choisi. Je me fous du mark et du yen, je t'aime. Je me fous du prix Goncourt, je me fous des prix tout court.
les championnats, les grands chelems, je t'aime. Je me fous de la météo, je sais bien le temps qui fait au creux de tes bras, doux comme la crème, je t'aime. Je me fous des voyages d'affaires, des colloques, des séminaires, je fais mes confitures moi-même, je t'aime. Les conquérants, les gagneurs, ça me fait vomir, ça me fait peur, je sais pas quelle folie les mène, je t'aime. Si le bousille ce qui restait des jardins qu'on habitait, s'il tarisse nos fontaines, je t'aime. Mon amour en mourira, chacun son tour, et y'a que ça qui me pose vraiment problème, je t'aime. Qui de l'autre fermera les yeux quand tout finira, comme deux petits feux qui s'éteignent, je t'aime. Et qui de nous choisira Interflora, la couleur du chrysanthème, je t'aime. Je me fous pas mal des oracles, les abrutis du zodiaque disent que t'es pas dans mon thème, je t'aime. Tu vois, on peut rien prévoir, et puis je me fous de savoir tout ce que je sais, devine toi-même, je t'aime. Tout ce que je sais, devine toi-même, je t'aime.
Elle aussi, auteure, compositrice, chanteuse, interprète et musicienne. Hein. C'est elle qui tient l'accordéon.
Absolument, absolument.
Michèle Bernard, quelle belle découverte que vous faites là, Hélène Azaïra.
Oui. Ah, elle est assez connue par un groupe de chants quand même.
Oui. Mais pourquoi pour vous cette chanson « Je t'aime » est une belle chanson d'amour ?
Optimiste. C'est la chanson d'amour optimiste. Ça fait du bien, des chansons d'amour optimiste, quand même.
Celle qui rappelle que même quand on n'a pas le sou, eh ben, il nous reste au moins ça. Et que c'est le sentiment le mieux partagé ou le moins justement partagé par tout le monde. Qui était Michèle Bernard, Hélène Azaïra?
Michèle Bernard, elle est toujours, elle a fait, c'est, il y a environ 30 ans, elle a percé au printemps de Bourges, où elle a fait vraiment une percée comme ça énorme. Et puis voilà.
Vous l'avez rencontrée, je suppose, bien sûr.
Oui, je l'ai rencontrée avec beaucoup de plaisir.
Elle a été portée par mai 68, puisque c'est en 60.
Exactement.
Oui, elle laisse tomber le piano classique familial et elle se lance dans l'aventure, elle se lance dans la chanson.
C'est pas une parisienne, hein?
Non, elle est lyonnaise.
Elle est lyonnaise.
Bon.
Voilà, c'est important.
Eh ben, on va continuer ce voyage de chansons d'amour en chansons d'amour choisies par Hélène Azaïra. Et cette fois-ci, on va chanter dans plusieurs langues, dans deux langues, en arabe et en français.
Thank you.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Chérie, combien je t'aime. Reinette Loranaise ou Reinette El-Wahrania ou alors, pour donner son vrai nom, parce qu'elle mérite qu'on donne de temps en temps son vrai nom, Sultana Daoud, née en 1918 à Tiaret, décédée le 17 novembre 1998 à Paris.
Et Tiaret est une ville bédouine et donc elle a une voix. Elle a une voix bédouine. Comme ça, qui a beaucoup de charme, justement, de ses voix bédouines. Et elle peut chanter les choses classiques. Et puis là...
Ce qu'elle a fait, c'est classe de l'arabo-andalou. Hein,
voilà.
Ou du judéo-arabo-andalou. Je ne sais pas d'ailleurs comment il faut dire Hélène Azéra.
C'est ridicule. Non. C'est des juifs qui chantent la musique arabe. Il n'y a pas de différence.
Vous l'avez connue et
oui, c'est
Loranaise.
Un des charmes de ma vie de l'avoir connue. J'ai mangé sa cuisine. Elle était non-voyante, mais elle faisait une cuisine merveilleuse.
Et c'est une chanson franc-arabe.
Oui.
Les deux langues, c'était pourquoi? Pour avoir... À l'époque, les deux publics, le public
ça aurait commencé,
arabophone et francophone.
Ça aurait commencé au Liban, en fait, ce principe de...
De mélanger les deux langues.
De mélanger les deux langues.
Reinette n'est pas tout à fait dans le musical. Hein. Elle était plutôt dans la grande tradition de la musique arabo-andalouse. Du haouzi, pour citer le sous-genre de la musique arabo-andalouse.
Elle fait aussi un petit peu d'andalou, hein. Elle fait des choses anciennes aussi.
Mais alors comment la vie de Reinette, qui a été quand même marquée par la guerre, par les guerres, devrais-je dire...
Elle a été marquée par le fait qu'elle était aveugle.
D'une part...
Ça, c'est quand même... Ça a été la grande chose.
Son professeur qui a été déporté, hein, à Marseille.
Oui.
Et puis, la perte d'un pays, l'Algérie, à l'indépendance de l'Algérie, même si...
Elle en a trouvé un autre.
Oui, elle en a trouvé un autre. en réalité, pas tant que ça, c'est ce que vous nous faisiez remarquer quand vous faisiez des émissions avec elle, c'est que jusqu'à la fin, elle a tenu à donner des concerts avec les musiciens qui l'avaient accompagnée quand elle était toute jeune.
Avec qui elle allait donner de... Des concerts avec les musiciens algériens. Il n'y n'y avait pas d'autres personnes.
Et qui étaient de très grands musiciens. Et pour Renette Loranaise, eh ben, il traversait la mer et il faisait comme si rien n'avait changé. On continue cette sélection des chansons d'amour choisies, sélectionnées par Hélène Azéra. Et là, on va terminer avec La sage Élise de Gilles Jean Villard.
Dans sa demeure médiévale, sur la rue des Saints Innocents, à l'ombre de la cathédrale, on pouvait la voir en passant.
Si lointaine en sa rêverie, ses beaux yeux parfois s'abaissant sur son travail de broderie, si fin sous ses doigts ravissants.
Le foyer, le travail, l'église, on l'appelait la sage Élise. Elle attend la maison somnole, on entend l'horloge qui bat, les pigeons, l'eau dans la rigole, et les vieux qui parlent tout bas. Quel ennui, le temps nous emporte, et déjà le cœur se flétrit dans ces lieux peuplés d'âmes mortes, dont les murs étouffent nos cris. La ville grise est enfermée dans son passé sans horizon, avec pour toute renommée ses remparts et sa garnison.
Ah Seigneur, que la vie est fade, les salons à l'heure du thé, et les concerts sur l'esplanade, et ce nom ça l'éternité.
Le foyer, le travail, l'église, on l'appelait la sage Élise. La maison, l'horloge qui sonne, la maison, l'horloge qui bat, et jamais il ne vient personne, et ces voix qu'on entend en bas, c'est les vieux qui parlent finance, le même maire revient chaque jour, portefeuille, intérêt, dépenses, on ne parle jamais d'amour. Il s'agit du fils du notaire, bien pensant, encore mieux nanti, bien introduit dans les affaires, pour Élise un si beau parti.
Il doit céder au langage de la raison avant l'été, un beau contrat de mariage, beaucoup de bien des deux côtés.
Le foyer, le travail, l'église, on l'appelait la sage Élise. Elle entend cette ritournelle, elle entend chuchoter ses voix. Viendra-t-il celui que j'appelle, et sans vain que je me débat. C'est alors dans la rue Moreau.
Quelle chanson! La sage Élise.
Ouais. C'était très laid.
Qui ça? Jean Villard? Dit Gilles Jean Villard?
Voilà.
Le Suisse?
Voilà.
Il était Suisse puisqu'il est né à Montreux en 1895. Il est mort en 1982. Il était tout à la fois comédien, écrivain, poète et chansonnier.
Il y a une profondeur dans ses chansons qui sont absolument extraordinaires. Il a été un des chansons du Front Populaire.
Un des chanteurs du Front Populaire?
Oui, oui.
Et pourquoi la sage Élise vous marque comme chanson d'amour, Hélène Azéra?
Ben elle est là, elle est là, elle aime. Donc ces histoires, il y a cet homme qui passe dans la rue, qui lui jette une rose et qui change entièrement son cœur, et puis qui va arriver dans la rue avec les chansons qui vont bouleverser son cœur. C'est extraordinaire.
Une chanson d'amour, c'est quoi la bonne définition d'une chanson d'amour pour vous, Hélène Azéra? C'est une histoire vécue, transformée en poème, mise en musique. Ce n'est pas quelque chose qui parle d'une blessure et que l'auteur-interprète partage.
J'en ai pas, parce que je crois que ça se transforme. Les chansons d'amour, justement, ça va être... Je vais voir ça comme ça. C'est la musique dont on se souvient.
On se souvient plus de la musique que des paroles?
On se souvient plus facilement de la musique.
Et puisque aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, on a toujours marqué la Saint-Valentin en chanson, en musique, en France?
Ben oui. C'est une histoire bizarre, hein, parce qu'on sait pas très bien d'où ça vient, cette histoire de Saint-Valentin.
Mais aussi, on sait un peu, quand même.
Dans ma petite vie, il y a deux garçons. Il y en a un brun et puis un blond qui m'aiment tous deux à leur manière. C'est un blues et à la fin, c'est le mec qui se flingue. Et je dis, c'est marrant, piaf, c'est toujours elle qui se tue à la fin.
Mais on est très content de votre choix, c'est-à-dire
je vous remercie.
Nicole Louvier et Michel Bernard, Renette Loranez et Gilles-Jean Villard. Merci pour cette sélection de chansons d'amour, Hélène Azéra.
Merci.
Il y avait même un Léo Ferré, vous avez hésité à un certain moment à mettre
oui.
Léo Ferré.
Oui.
Bon.
Si tu t'en vas, un jour. Évidemment, je n'ai pas mis les chansons trop connues.
Si tu t'en vas. Si tu t'en vas. Voyage pas si tu t'en vas. La mer viendra toujours vers le rivage. Les fleurs sauvages dans les blés lourds viendront. Si tu t'en vas. Si tu t'en vas un jour. Tu oublieras. Les blessures d'amour ne s'ouvrent pas. Si tu t'en vas.
Et ben voilà, on a fini par écouter toutes vos chansons d'amour choisies pour le réveil culturel à l'occasion de la Saint-Valentin. Merci Hélène Azéra, ça a été un plaisir de vous avoir. Et puis qu'est-ce qu'on dit tiens, pour la Saint-Valentin? On dit bonne Saint-Valentin ou salut les amoureux? Bah, on va dire salut les amoureux et bonne journée tout le monde, à bientôt.
Si tu t'en vas.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30,
si tu
à suivre
vas.
Le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour sur France Culture à 22h15, matière à penser. Cette semaine en compagnie de René Friedman.
Les grands espoirs de la médecine sont le fruit de nombreuses années de recherche. J'ai choisi 5 événements cette semaine. Rendre la vue aux aveugles, faire marcher les paralytiques, changer les cellules du cœur et envisager les nouveaux traitements du cancer qui stimulent les défenses naturelles ou font appel à la génétique pour guérir.
Les toutes dernières avancées de la médecine, matière à penser, de lundi à vendredi à 22h15 et sur franceculture.fr. Vous en prendrez bien un petit peu plus. Chaque dimanche à midi, Les Bonnes Choses par Caroline Brouet.
Tea time ce dimanche dans Les Bonnes Choses. Le thé, de l'eau chaude avec un vague goût de foin ou à déguster comme un vin sans alcool. Alors pour en avoir le cœur net, nous avons invité un archéologue du thé et une sommelière de thé qui nous raconte d'où vient cette liqueur aux 500 variétés et aux couleurs multiples et qui nous disent avec quoi on peut le manger. Sans compter les recettes sucrées de la chef 3 étoiles Anne-Sophie Pic qui nous parle de sa cuisine au thé et la drôle de Madeleine de la romancière Amélie Nothomb.
Les Bonnes Choses, chaque dimanche à midi et sur France Culture. franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Un recours plus facile et élargi aux contractuels, voilà ce que prévoit entre autres le gouvernement pour réformer la fonction publique. La notion de rémunération au mérite serait également évoquée. L'avant-projet de loi est présenté ce matin, nous y reviendrons. Dans ce journal, vous comprendrez pourquoi Google écope d'une amende de 30 000 euros pour des clauses abusives. Nous irons aussi au Venezuela où les habitants à la frontière avec la Colombie espèrent l'arrivée rapide d'une aide humanitaire. Et puis en Floride, aux États-Unis, un an après la tuerie de Parkland dans un lycée, portrait à suivre d'une lobbyiste de 80 ans qui semble convaincre de nombreux élus. La réforme de la fonction publique sera donc présentée ce matin lors d'une conférence de presse aux journalistes. Mais via les syndicats, on en connaît les grandes lignes puisqu'ils étaient conviés hier à Bercy pour découvrir cet avant-projet de loi de transformation de la fonction publique. Les calculs des rémunérations des fonctionnaires ne seront pas modifiés. Le gouvernement maintient son objectif, supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat. Et puis surtout, il va recourir plus largement au contrat privé, Delphine Simon.
Le texte ouvre très largement le recours aux contractuels afin d'apporter de nouvelles compétences dans la fonction publique. Des contrats de projet d'une durée de 6 ans maximum pourront être créés sur le modèle des contrats de chantier du privé. Le texte ouvre aussi la possibilité de rupture conventionnelle réservée aux contractuels. Ce mécanisme sera expérimenté à partir de 2020 par les fonctionnaires de l'État et des hôpitaux. Autre nouveauté, le temps de travail des fonctionnaires territoriaux. Fini les dérogation à la durée légale, régulièrement épinglée par la Cour des comptes. Enfin, le projet de loi prévoit de sécuriser les parcours professionnels des fonctionnaires, notamment en cas de plan de départ volontaire. Si la CGT dénonce un catalogue du pire, force ouvrière une mascarade, le secrétaire d'État Olivier Dussopt invite les syndicats à amender ce texte de 33 articles. Une simple posture, répondent les 9 organisations. En plein débat national, elles dénoncent, comme la FSU, un calendrier accéléré et des pistes déjà bouclées. Il reste à peine une dizaine de jours pour l'amender.
Le gouvernement espère voir ce texte adopté d'ici l'été. Il est attendu à 11h tout à l'heure à la mairie de Gargilès-Dampierre avant de s'entretenir avec des maires de l'Indre et des chefs d'entreprise. Emmanuel Macron poursuit ses déplacements, ce jeudi encore donc, à l'occasion des grands débats nationaux. Un an de prison ferme aménageable. Christophe Détinger a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Paris, condamné pour s'en être pris à 2 gendarmes début janvier à Paris en marge d'une mobilisation des Gilets jaunes. Il a également l'interdiction de séjourner à Paris et de participer à des manifestations pendant 6 mois. Elle préfère finalement jeter l'éponge. La gilet jaune Ingrid Levavasseur abandonne la liste du ralliement d'initiative citoyenne. Elle entendait la mener pour les élections européennes. Elle abandonne donc. Nous en venons maintenant à cette décision de justice où quand l'association de consommateurs UFC Que Choisir fait plier Google, le géant américain a été condamné hier à verser 30 000 euros à l'association, condamnée pour le caractère abusif de certaines de ses clauses contenues dans ses conditions générales d'utilisation ainsi que dans les règles de confidentialité. Raphaël Bartholomé est juriste à l'association de consommateurs. Il explique cette décision.
Le tribunal impose à Google de rappeler que la finalité première, c'est la collecte et l'exploitation à des fins commerciales des données personnelles. Parce que vos mails sont analysés et éventuellement vous évoquez un sujet particulier, eh bien, comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, vous allez avoir des bandeaux publicitaires en lien avec vos mails. Clairement, c'est un électrochoc pour que Google, un, soit plus transparent sur les informations, deux, transforme vraiment la façon dont il cherche à obtenir l'accord du consommateur. Prenons l'exemple de la géolocalisation permanente de l'ensemble des utilisateurs. Quand je m'inscris sur Google, j'accepte en une fois et de façon globale l'ensemble des conditions d'utilisation et des règles de confidentialité. Ce que nous dit le tribunal, c'est que cette méthode n'est pas la bonne. Google doit obtenir des consentements spécifiques pour toutes les finalités d'utilisation et d'exploitation des données. Il y a une réalité, c'est l'exploitation économique des données personnelles, mais cette réalité-là, elle ne doit pas être par défaut aux dépens du consommateur. Le consommateur a des droits, Google doit s'assurer pour chaque finalité d'obtenir un accord express des consommateurs, quitte à devoir cocher 25 cases. C'est ça l'important.
Précisons que Google peut encore faire appel de ce jugement. Et puisque l'on évoque les géants du numérique, ils s'inclinent face aux décisions européennes. Hier soir, un accord sur le droit d'auteur a été trouvé entre la Commission, le Parlement et le Conseil européen. Il vise à mieux protéger et mieux rémunérer les auteurs de contenu face aux plateformes de diffusion. En bref encore, peut-on parler d'un accident industriel? En tout cas, l'A380 d'Airbus, qui a coûté des milliards d'euros et lancé en 2005, cet A380 sera abandonné faute de commandes suffisantes. Ce matin, le principal acheteur de cet avion géant, la compagnie Emirates, annonce qu'elle renonce à acheter 39 A380. Les livraisons d'Airbus cesseront définitivement en 2021. Donald Trump répète qu'il étudie encore toutes les options face à la crise politique et humanitaire au Venezuela. Il souligne que le président élu Nicolas Maduro commet une terrible erreur en empêchant l'aide humanitaire internationale d'entrer au Venezuela. L'opposant Juan Guaido a lui déjà annoncé qu'il laisserait rentrer cette aide humanitaire des Américains le 23 février prochain, et cela malgré le blocage du gouvernement actuel. À la frontière avec la Colombie, les habitants espèrent que cette aide pourra arriver. C'est ce qu'a constaté Benjamin Delisle.
Comme chaque matin, des milliers de Vénézuéliens affluent pour traverser le pont Simón Bolívar vers la Colombie. Tous vont s'acheter de la nourriture et des médicaments qu'ils ne trouvent plus ici. Tous aussi affirment attendre l'aide humanitaire de pied ferme. Tous, encore, comme Carolina, 22 ans, condamnent le blocage.
A mí no me gusta mucho la política.
Je n'aime pas trop la politique, mais il faut voir les choses en face. Je pense qu'il y a des personnes aveugles, le gouvernement. On dirait qu'ils n'acceptent pas la réalité, que la situation au Venezuela est critique, qu'on va mal.
Dans la ville de San Cristobal, à une heure de là, le docteur Alexis Sanchez représente l'association Médicos por Venezuela. Il doit organiser la marche vers la frontière le 23 février prochain.
L'idée, c'est de mener une action assez tôt pour nous en aller au bon moment, parce que nous ne voulons ni exposer nos patients, ni aucun de nos activistes.
Pas de confrontation violente, donc, mais un coup médiatique pour révéler au monde des mois d'enquête sur la situation sanitaire au Venezuela.
L'aide humanitaire internationale concerne des groupes vulnérables, des personnes dont il est établi qu'elles sont prioritaires parce que leur vie est menacée.
Selon lui, le 23 février sera un tournant, même s'il l'aide n'entre pas, car le monde prendra conscience de l'ampleur de la crise humanitaire au Venezuela.
Le groupe État islamique oppose plus de difficultés que prévu en Syrie. Les combattants kurdes et arabes avaient pourtant annoncé une victoire rapide, mais la progression des forces démocratiques syriennes est assez lente, Étienne Monin.
Dans la base qui sert de camp au service de presse des Kurdes et aux journalistes internationaux, les ouvriers terminent l'installation du lieu de la célébration avec une scène en planches et en moellons, des porte-drapeaux fixés sur de lourdes jantes de voitures et des marqueurs au sol blanc comme la couleur des murs qui viennent entièrement d'être repeints. Mais le décor contraste encore avec la ligne de front. Hier, l'intensité des combats semblait limitée. La résistance de Daesh est importante. Adnan Afrin, l'un des commandants kurdes des forces démocratiques syriennes. Jusqu'à présent, elles résistent encore bien, mais c'est sûr, ils vont tomber devant notre force. Notre problème principal, ce sont les mines, et ensuite il y a les kamikazes et les voitures piégées. C'est cela qui pose problème aux camarades. Les Kurdes disent aussi vouloir épargner les civils. Le nombre à l'intérieur de Baghouz est plus élevé qu'initialement estimé. Selon les sources, mardi, entre 1300 et plus de 2000 personnes se sont livrées à l'Alliance arabo-kurde.
Étienne Monin, envoyé spécial de France Culture en Syrie. Nous en venons à cette triste commémoration. Il y a un an, le 14 février 2018, 17 personnes étaient tuées dans un lycée de Parkland en Floride aux États-Unis. Quelques semaines plus tard, des dizaines de milliers de jeunes Américains descendaient dans les rues pour réclamer un meilleur contrôle des armes à feu. Un an plus tard, où en est-on? La législation n'a que très peu bougé. La faute à une femme, Marion Hammer. Son portrait est signé Grégory Phillips.
Dans les couloirs du Capitole de Tallahassee, on croise presque chaque jour la silhouette de cette petite dame, 1m50, et son éternelle coupe au bol. Marion Hammer aura 80 ans dans deux mois. L'ancienne dirigeante nationale de la NRA n'est pas une élue, mais depuis deux décennies, elle est à l'initiative d'une trentaine de lois pro-armes adoptées par le Parlement de Floride. On dit de cette lobbyiste qu'elle fait et défait les carrières, par exemple en notant les élus en fonction de leur engagement à défendre ou non le second amendement qui garantit la liberté d'être armé. Ces notes vont de A à F et sont consultables par tous.
I'm A plus, A rated.
Moi, je suis A+, explique le sénateur républicain Dennis Braxley. Je n'ai jamais voté une loi qui restreint l'accès aux armes. Je pense qu'une arme, c'est juste un objet. Ce n'est pas ça qui fait mal.
Good afternoon. I received an F.
Et moi, comme note, j'ai reçu F- que je porte comme une médaille, dit Carlos Guillermo Smith. L'an dernier, le représentant démocrate a réussi à faire passer cette loi qui, en Floride, relève l'âge minimal pour acheter une arme de 18 à 21 ans. Si ces dernières décennies, on n'a pas été capable de passer la moindre loi importante sur le contrôle des armes en Floride, c'est parce que les républicains ont été pieds et poings liés avec le programme de Marion Hammer. Mais je pense que depuis Parkland, depuis l'an dernier, elle a un peu moins de pouvoir au sein de ce Parlement. Et c'est bien. Les survivants de Parkland ont lancé cette semaine une pétition pour réclamer l'interdiction de la vente des fusils d'assaut en Floride et la tenue d'un référendum local sur le sujet. Mais Marion Hammer, Mamie Gunn, utilisera sans aucun doute tout son poids et son influence pour faire en sorte que cela n'arrive pas.
Ce jeudi en France sera une belle journée ensoleillée et douce. Comptez 3 degrés à Strasbourg, Lille, Lyon, 4 à Paris, 7 degrés à Bordeaux, 11 à Nice ce matin. Un beau jeudi en ce 14 février où nous célébrons l'amour sur les ondes de France Culture. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Coquerel.
Dans votre journal des idées ce matin, Jacques, vous vous demandez d'où vient cette tradition de la Saint-Valentin.
Oui, oui. Alors rapidement, parce que si le Saint-Martyr a bien existé au 3e siècle, la célébration amoureuse de sa fête semble aussi liée au Lupercal, un rite de fécondité romain de la mi-février, comme il arrive d'ailleurs souvent pour les fêtes religieuses qui se superposent à des cultes calendaires païens afin de capter des énergies collectives. D'ailleurs, l'Église a retiré le saint du calendrier liturgique en 1969, année érotique comme on sait. C'est que le caractère profane du saint patron des amoureux avait fini par l'emporter. Les bijoutiers et les fleuristes le savent bien, qui font un gros chiffre ce jour-là. Pour les sites et rencontres, les sites et services de rencontres, la fête est l'équivalent du Black Friday dans le commerce, observe Nicolas Richaud dans Les Échos. Ce 14 février, combien de millions d'utilisateurs seront-ils dans le monde à se chercher un rendez-vous galant sur un site ou une application de dating? La majorité d'entre eux se retrouveront sur l'une des offres du géant américain Match Group. Son patron, qui supervise une société promettant de trouver l'amour, Barry Diller, alias Barry Killer, ne fait pas dans le sentiment. Au milieu des années 2000, l'Américain s'attaque à Mythic, le leader du marché européen. Son fondateur, Marc Simoncini, raconte sa tentative de rachat, un email de Barry Killer, dont l'objet est un mot doux, « It's time for love ». Le flirt se conclura quelques années plus tard par un mariage en bonne et due forme avec un rachat valorisant le français 500 millions de dollars. La suite est à l'avenant, une stratégie de portefeuille, car le dating n'est pas un marché unique, mais une mosaïque de 50 segments différents. Match a des services pour des rencontres casuales ou plus sérieuses, mais aussi des offres se déclinant par affinité politique, raciale, religieuse, etc. Soit désormais un catalogue de plus de 45 marques, dont Tinder, qui fait figure de vitrine et pèse déjà près de la moitié des revenus du groupe, conçu comme un appôt à millennials avec l'idée de les rediriger vers les offres payantes de Match. L'application est devenue celle qui génère le plus de revenus au monde après Netflix. La carte du tendre semble bien loin, mais même sur les services de rencontre, de plus en plus matinés d'algorithmes et d'intelligence artificielle pour vous aider à trouver le conjoint idoine, rien n'est joué d'avance. C'est aussi l'une des limites du système, la fidélité en amour. Si le service tient ses promesses, l'utilisateur n'a pas à s'en servir ad vitam aeternam. Mais revenons aux traditions. À la Saint-Valentin, on s'écrit des billets doux. On les appelait d'ailleurs les Valentins. Martin Buber considérait les mots « je » et « tu » comme les termes fondamentaux de la langue. Quand ceux-ci se conjuguent dans le retrait d'une pensée intime, c'est à une singulière présence qu'ils donnent lieu. « Je pense à toi » est la formule de cette étrange plénitude atteinte en l'absence de l'autre, car aucune pensée ne nous donne davantage le sentiment de notre existence que cette condition de sujet séparé et pensant à l'autre. C'est la prodigieuse alchimie de l'amour qui s'opère en douce et même dans le manque ou l'attente. Saint-Augustin Faustin la résumait ainsi. Je n'aimais pas encore, mais j'aimais à aimer. Et aimant à aimer, je cherchais un objet à aimer. Dans Fragments d'un discours amoureux, Roland Barthes écrit « Je me suis projeté dans l'autre avec une telle force que lorsqu'il me manque, je ne puis me rattraper, me récupérer. » D'où les effets collatéraux de l'addiction. Proust, qui parle à propos de l'amour de Swann, du chimisme même de son mal, le comparant à un morphinomane. Il décrit ainsi sa relation passionnelle avec Odette de Crécy, qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Une passion si étroitement mêlée à toutes les habitudes de Swann, à tous ses actes, à sa pensée, à sa santé, à son sommeil, à sa vie, qu'on n'aurait pas pu l'arracher sans le détruire lui-même à peu près tout entier. Comme on dit en chirurgie, son amour n'était plus opérable. Robert Burton, l'auteur de la célèbre Anatomie de la mélancolie, décrivait au XVIe siècle les victimes de l'amour comme des esclaves, des bêtes de somme, des fous, des imbéciles, des têtes en l'air, des atrabilaires, hors d'eux et aveugles comme des scarabées. Et peu après, le médecin français Jacques Ferrand évoquait le visage pâle, citron et blafard, les yeux enfoncés d'un jeune homme éperdument amoureux, dont il reconnaît les signes sûrs de la passion. Pourtant, Nietzsche définit ainsi la nature du sentiment amoureux, qu'il nomme d'ailleurs sans embâge sensation sexuelle. Il aurait ceci de commun avec les sensations de pitié ou d'adoration que, grâce à elles, un être humain fait du bien à un autre tout en éprouvant du plaisir. On ne rencontre pas si souvent dans la nature dispositions aussi bienveillantes. Et pour finir, sur un beau geste, je citerai Emmanuel Lévinas. La caresse consiste à ne se saisir de rien, à solliciter ce qui s'échappe sans cesse de sa forme vers un avenir, ce qui se dérobe comme s'il n'était pas encore. Il est encore 6h45 sur France Culture, pour une seconde. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Alors au sommaire des enjeux internationaux, aujourd'hui le gazoduc russe Nord Stream 2, et là il y a de l'eau dans le gaz.
C'est ça, il ne se dérobe plus lui du gaz dans l'eau, en tout cas il y en aura deux fois plus fin 2019 du moins dans la mer Baltique, puisque c'est ce gazoduc Nord Stream 2 qui vient d'être validé par les 28 États membres de l'Union Européenne mardi dernier, un projet controversé qui renforce les positions russes en Europe. Alors outil de l'émancipation européenne ou nouveau motif de discorde, eh bien on voit ça avec vous Angélique Pâle, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu. Vous êtes chercheur énergie et matières premières à l'IRSEM, enseignante à Sciences Po et à Paris 1. Dans le site The Conversation, justement, vous posez la question « Gazoduc Nord Stream 2, est-ce un piège russe ou une nécessité de l'Union européenne ?» Justement, la Russie, donc premier fournisseur de gaz en Europe, un tiers du marché environ, c'est de Baltique qui fait le lien entre la Russie et l'Europe. Est-ce qu'il y a d'abord une sorte d'évidence logistique pour ce gazoduc ou une nécessité disons économique pour l'Union européenne?
Un peu des deux. C'est-à-dire que ce gazoduc, il est censé doubler le tracé d'un premier gazoduc, Nord Stream 1, mis en service en 2012, utilisé au maximum de ses capacités. Et l'Allemagne, qui est en plein dans sa propre transition énergétique, y voit un intérêt économique et logistique évident à se raccorder directement avec la Russie, notamment pour assurer son approvisionnement en gaz et la croissance de son approvisionnement.
Mais la croissance de l'approvisionnement allemand qui entre en friction avec ce prérequis de diversification des approvisionnements de l'Union européenne dans son paquet énergie. Alors, et également un gazoduc qui arrive dans un contexte particulier. Pourquoi ça a été si long? Je crois qu'il a fallu 14 mois pour arriver justement à un accord des 28 pour le valider enfin.
Oui, en fait, il y a une discorde assez fondamentale autour de ce gazoduc pour deux raisons. La première, elle est économique, c'est-à-dire que la question, c'est de savoir qui est le hub gazier européen de redistribution. Les Polonais sont sur les rangs également. Et s'oppose à l'Allemagne sur ce point. Donc il y a une question économique interne à l'Union. Et puis il y a la question aussi externe à l'Union, disons, qui est la question de la diversification des approvisionnements. L'Union européenne est déjà très dépendante de la Russie, à 35% du marché. Et les opposants au projet, toujours la Pologne, mettent en avant le fait que la dépendance à la Russie s'accroîtrait avec ce projet et mettrait en péril le transit gazier par l'Ukraine, fragilisant la position ukrainienne vis-à-vis des Russes.
Et de fait, c'est avec ce doublement du transit par la mer Baltique, on atteindrait 110 milliards de mètres cubes, c'est bien ça. Alors justement, en quoi est-ce que ce tuyau, il comporte en lui une modification, on pourrait dire, des équilibres géopolitiques en Europe.
Alors en fait, le transit russe vers l'Ukraine, initialement vers l'Europe, il est initialement assuré par l'Ukraine. Autour dans les années 2000, on a 140 milliards de mètres cubes qui traversent l'Ukraine pour arriver en Europe. Le début des années 2000, c'est aussi les différents gaziers russo-ukrainiens qui impactent l'Union européenne, avec notamment des ruptures d'approvisionnement en hiver. Et donc, la Russie s'est engagée dans une espèce de stratégie de contournement avec la construction d'un certain nombre de gazoducs. Le gazoduc Yamal, qui traverse la Pologne, 33 milliards de mètres cubes. Le gazoduc Nord Stream 1, à travers la mer Baltique, 55 milliards de mètres cubes. Et là, le gazoduc Nord Stream 2, de la même capacité, 55 milliards de mètres cubes. Et en fait, avec ces trois gazoducs, on aurait une sorte d'alternative technique à l'Ukraine. Donc l'idée, ce serait pour les Russes de faire baisser progressivement la part du transit ukrainien dans l'approvisionnement de l'Union européenne et de négocier directement avec les Européens sans passer par l'Ukraine.
Mmh. Et alors, d'ailleurs, c'est assez clair sur la carte que vous avez produite sur cet article auquel on renverra. Alors, qu'est-ce qui a inquiété le plus ces derniers mois ceux qui, en Union européenne, s'opposaient à ce gazoduc? Est-ce que c'était le renforcement de la prééminence russe ou alors ce positionnement d'une certaine prééminence allemande désormais comme hub justement logistique, on pourrait dire, du gaz?
Alors, ce qui est affiché, c'est plutôt la question géopolitique. C'est-à-dire que les pays riverains de la mer Baltique, eux aussi, émettent des réserves. Ils ne sont pas sur le trajet du gazoduc, ils n'ont pas de bénéfices liés au transit gazier. Et les installations pour la construction du gazoduc se trouvent parfois proches de certaines bases navales, notamment en Suède, la base de Karlskrona, où est basée une partie de la marine suédoise. Le gazoduc passe aussi à proximité de l'île de Gotland, qui a été récemment remilitarisée par la Suède. Donc voilà, il y a plutôt une certaine inquiétude géopolitique autour de ce gazoduc, même si les questions économiques sont là en sous-jacent.
Mmh. Et est-ce que ça veut dire, concernant les inquiétudes plus particulièrement de l'Ukraine, que l'Ukraine est la grande perdante désormais que ce gazoduc est validé? Il y a quelques jours, je crois, Angela Merkel a dû affirmer justement que ce gazoduc ne se ferait pas au détriment de l'Ukraine, mais comment à partir d'aujourd'hui?
Alors, c'est un peu l'idée de cet accord européen qui a été signé il y a quelques jours. L'idée, c'est de dire, ce gazoduc, on n'empêche pas nécessairement sa construction. En revanche, il devra être soumis aux règles européennes de concurrence et d'accès aux parties tiers. Et l'idée, c'est de dire également que en mettant ce gazoduc un peu dans le giron de la décision européenne, on va pouvoir négocier avec les Russes, en tout cas c'est l'idée, la conservation d'une partie du transit par l'Ukraine. Donc laisser en quelque sorte une certaine marge de manœuvre à l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. En tout cas, c'est ce qui est sur la table.
C'est ce qui est sur la table, sachant qu'il y a eu quelques critiques concernant cet accord, avec des dérogations qui pourraient être appliquées. C'est la députée verte, je crois, Michèle Revazzi, qui le disait, dérogation et une application qui est laissée de l'accord au régulateur allemand. Est-ce qu'il n'y a pas un vice dans cet accord?
Alors, c'est un peu la question. C'est-à-dire que le marché qui a été passé finalement entre l'Allemagne et les autres pays, c'est on applique la régulation européenne sur les gazoducs extérieurs, mais c'est le premier point d'entrée sur le territoire européen du gazoduc qui négocie avec le pays tiers, donc avec la Russie en l'occurrence. Donc là, en fait, on laisserait la négociation aux Allemands.
Oui, donc il y a une certaine incertitude. Alors pour en venir à la question nécessité économique ou levier d'influence diplomatique, en quoi est-ce que, disons, cette extension des gazoducs russes, ce serait une arme diplomatiquement efficace, autrement que pour négocier des tarifs gaziers?
Ce serait un peu c'est de la projection là, mais ce serait un peu finalement la même problématique que pour le transit ukrainien. C'est-à-dire que autour des négociations d'approvisionnement, à partir du moment où vous êtes très lié à un fournisseur, évidemment, sur la question des négociations de prix, se joue tout un certain nombre d'enjeux. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, les contrats gaziers russo-ukrainiens doivent être renégociés. Ils terminent leur effet au 31 décembre 2019. Donc il va y avoir toute une renégociation autour de ce transit gazier ukrainien dans l'année à venir. Et le calendrier est relativement serré puisque les Ukrainiens ont une élection présidentielle qui démarre le 31 mars. Le deuxième tour est prévu, s'il y en a un, le 21 avril. Ensuite, les Européens entrent en phase électorale pour leur Parlement. Et donc, Il va falloir que la renégociation russo-ukrainienne, à laquelle les Européens vont vraisemblablement jeter un œil, se fasse dans ce laps de temps, avant fin 2019, dans un contexte électoral compliqué.
Et dans ce contexte, le gazoduc Nord Stream 2 pourrait servir de levier. On n'a pas parlé de la position américaine, mais il y a eu une intervention et une pression assez forte des différentes autorités américaines. Le secrétaire d'État à l'énergie, Rick Perry, à la fin de l'année dernière. Mike Pompeo, qui est venu récemment en Europe et qui disait que ce gazoduc comportait un énorme risque pour la sécurité. Qu'est-ce que ça signifie du point de vue américain?
Alors, les Américains, ils ont un double intérêt là-dedans. Le premier, c'est que, évidemment, ils n'ont pas envie de voir leur partenaire européen augmenter sa dépendance et ses relations avec la Russie. Et le deuxième, c'est qu'ils sont eux-mêmes exportateurs de gaz. C'est le fameux gaz de schiste américain qui commence à arriver sous forme de gaz naturel liquéfié sur les côtes européennes. Pour l'instant, on est sur des très faibles montants. C'est à peu près 3% de la consommation de gaz naturel liquéfié européen. Donc c'est peu, mais ça commence à croître. En fin 2018, les montants étaient plus élevés. Et les Américains commencent à se dire qu'ils aimeraient bien vendre une partie de ce gaz naturel liquéfié aux Européens. Et donc de devenir un fournisseur un peu alternatif à la Russie.
Et est-ce qu'ils ont jusqu'ici réussi ou plutôt échoué? Parce que dans ce projet de devenir fournisseur alternatif, il y a des projets de construction de terminaux méthaniers. Mais je crois qu'aucun n'est vraiment terminé, ni en Croatie, ni en Allemagne, même s'il y a eu des promesses pour l'instant. Les États-Unis sont encore à la porte de ce marché?
Alors les États-Unis sont encore à la porte de ce marché. En revanche, il y a déjà eu des effets assez intéressants de la présence de gaz américain en Europe, notamment par exemple en Lituanie, où les Lituaniens ont construit un petit terminal méthanier pour importer du gaz naturel liquéfié, notamment des États-Unis, ce qui leur a permis de renégocier les prix du gaz avec la Russie, à la baisse.
Bon, un exemple effectivement de négociation qui fonctionne. On suivra celle avec l'Ukraine d'ici la fin de l'année. Et merci beaucoup pour vos explications aujourd'hui, Angélique Pall. Je le rappelle, chercheur à l'IRSEM, enseignante à Sciences Po.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum L'année vue par les savoirs. Participation, représentation, information, hashtag le nouvel âge de la politique, algorithmes et démocratie, fake news, concertation, philosophie des réseaux sociaux. Quatre tables rondes animées par les producteurs de France Culture pour comprendre le monde d'aujourd'hui. En partenariat avec La Croix, l'Histoire, Alternatives économiques et avec le soutien de la Chancellerie des Universités de Paris. Venez nombreux, mardi 19 février dès 9h30 dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Plus d'infos, franceculture.fr. Entrée gratuite, réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr.
L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des précautions simples peuvent être adoptées. En cas de fièvre supérieure à 38 degrés, courbature ou grande fatigue, restez si possible chez vous et évitez les contacts avec les personnes fragiles comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes. Demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin traitant si nécessaire. Ne vous rendez pas aux urgences sans avis médical et contactez le 15 uniquement en cas d'urgence. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Eh bien,
bonjour, Guillaume Martinet.
Bonjour, Guillaume Bernard.
Si vous avez encore envie de vous lever.
Excellente raison d'écouter France Culture et les matins avec vous, Guillaume. Excellente raison aussi de s'interroger sur Simone Veil, qui semble être une Marianne parfaite.
À l'évidence, Simone Veil symbolise que pourrait être une Marianne par son combat politique, bien sûr, son engagement pour la cause des femmes, bien sûr, et parce que ce serait un beau symbole que la République prenne le visage d'une femme juive pour en faire son emblème au moment où le visage de cette femme est barré par la haine. Oui, mais voilà. N'est-ce pas justement aussi ce qui pose problème? Car choisir Simone Veil comme Marianne aujourd'hui et non pas la semaine dernière, c'est le faire, notamment en réaction à ces tags découverts à Paris 13e, souillant son image. Un geste de haine, mais aussi un geste microscopique à l'échelle des combats de cette femme. Personne ne sait qui l'a perpétré, ce geste, mais sans même le savoir, on peut imaginer l'infinie lâcheté qu'il y a à s'en prendre à un pochoir sur une boîte aux lettres, une manière finalement plutôt réussie de montrer que l'on sait conjuguer ignominie et médiocrité. Et puis de l'autre côté, il y a Simone Veil, ce qu'elle représente. Or justement, Simone Veil ne s'est jamais vécue comme une victime. Elle a toujours été une combattante, toujours du côté de la vie, jamais de la plainte, comme si elle répétait au travers des épreuves qu'elle traversa cette scandaleuse phrase de Freud on n'est jamais victime que de soi-même. Simone Veil, comme sa compagnonne de déportation, Marceline Loridan-Ivens, n'ont eu de cesse de montrer qu'elles étaient plus fortes que la mort, plus fortes que la mort. Alors, un tag, vous pensez. Faire de Simone Veil aujourd'hui la nouvelle Marianne, juste après ce tagage, c'est faire accroire à ce minable petit tagueur qu'il justifie une réaction nationale, que son geste mérite une réponse politique, alors qu'il est tout simplement infra-politique. Tracer une croix gammée sur une boîte aux lettres, c'est juste une bonne manière de renseigner sur ce que l'on est, c'est une manière de montrer que la haine la plus vive se marie fort bien à une absence absolue de courage. Et à cet égard, c'est une bonne nouvelle pour les démocrates de tout poil, parce que cela signifie que les adorateurs de la croix gammée sont en réalité bien lâches. Alors je vous laisse juger, songeons à l'auteur de ce graffiti quand on commet un tel geste, qui est le souilleur et qui est le souillé.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Et aujourd'hui, 14 février, France Culture célèbre la Saint-Valentin. On va parler d'amour, de bonheur et puis aussi de désamour, hein, parce qu'on peut être romantique et pragmatique. Et pour en parler, nous recevrons l'une des plus grandes sociologues au monde, Eva Illouz. Elle a été classée parmi les 12 intellectuels les plus influents par le magazine Design. Elle sera dans ce studio dans une quarantaine de minutes. En attendant, il est 7h sur France Culture.